Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec un nouvel invité. Il vient de faire paraître son 30e nouveau roman. Didier Cornaille, bonjour.
Bonjour.
Merci à vous d'être en cette fin de matinée devant notre micro. Alors ce roman a pour titre Gentille Blandine, disponible depuis le 11 février dernier dans toutes les librairies. Et le roman a paru aux éditions des Presses de la Cité, un éditeur auquel vous êtes attaché et qui vous êtes également attaché.
Oui, la réciproque est vraie, avec qui je m'entends bien.
Dois-je vous présenter ? Oui, parce que c'est tout de même mon travail d'animateur. Je rappelle que vous êtes un homme du Nord, vous êtes né à Cambrai.
C'est pas un hasard, hein. Je suis né dans le pays des bêtises, c'est normal, c'est évident.
Et vous êtes né, Didier Cornaille ? Peut-être que beaucoup de nos auditrices et auditeurs l'ignorent, vous êtes né dans une famille de paysans.
Ah, mes parents étaient agriculteurs, bien sûr.
Univers que vous connaissez bien.
Oui, et pendant longtemps j'ai cru que la ferme de mes parents et la région autour, région betteravière et d'élevage, ça représentait toute l'agriculture, ça représentait tout le monde rural. Il a fallu que je voyage pour m'apercevoir qu'en fin de compte, il n'en est rien et qu'il n'y a pas deux ruralités identiques, deux ruralités qui se ressemblent.
Vous n'avez donc jamais rompu avec ce monde rural dont vous êtes encore aujourd'hui un observateur passionné. Et vigilant.
Certainement, oui. Oui, pour moi, le monde rural, le hasard, mais en même temps mon goût, a fait qu'après y être né, ça je ne l'avais pas choisi. Je m'en suis jamais éloigné, ni mes études, ni pas mal de voyages ne m'ont éloigné du monde rural vers lequel je suis toujours revenu. Et j'ai eu la chance, de par mes fonctions successives, parce qu'il y en a eu plusieurs, de le découvrir sous beaucoup de ses aspects. J'ai dit beaucoup, hein, pas tous, hein, sous beaucoup de ses aspects, parce que ça, c'est ce dont il faut prendre conscience, c'est que la ruralité en général est extrêmement diverse. Le Morvan n'a aucun rapport avec les Flandres, par exemple. J'ai dit ça comme... Hein, bon, c'est pourtant le monde rural d'un côté comme de l'autre. Et ce sont des pays extrêmement divers qui ont une vie, un caractère et un tempérament très très divers.
Alors ce monde rural, vous lui avez consacré toute votre carrière de journaliste. D'abord au Figaro agricole de 66 à 74, au quotidien Le Monde et un peu plus tard au Progrès.
Non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
D'abord au Progrès... Ensuite et simultanément, parce que j'étais correspondant et je travaillais pour les deux, Le Monde, en même temps que d'autres journaux. Mais j'étais longtemps pour correspondant du Monde, dont je garde bien sûr un souvenir ému, c'est évident.
Alors vous êtes venu à l'écriture avec un premier roman, paru il y a 30 ans maintenant, 1991, c'est Le vol de la buse. Paru aux éditions de l'Armançon,
oui,
belle maison d'édition bourguignonne créée par Gérard Gauthier, maison... Aujourd'hui disparu.
Malheureusement disparu depuis maintenant 2 ans.
Oui.
C'est un grand, grand dommage.
Et ce premier écrit, ce roman, Le vol de la buse, vous vaut un prix littéraire, Didier Cornaille.
Il est paru en 92, en mai 92, mai 91, autant pour moi. Il est paru en mai 91 et il a décroché le prix Sully-Olivier de Serres en 92, qui à l'époque était un prix remis par le ministère de l'Agriculture. Vers cette création littéraire dans le monde paysan, en quelque sorte. Prix qui a eu son importance à l'époque. Bon, maintenant, il n'existe plus. Mais ça a été tout de même pour moi un booster extraordinaire. Le livre reste marqué par ce prix auquel je tiens énormément, bien sûr.
Alors, parallèlement, effectivement, au métier de journaliste, vous avez aussi contribué... de manière incontestable, à faire renaître les chemins à travers des guides de randonnée Et vous avez réhabilité des chemins de nombreuses régions de France.
C'est une des façons que j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer, de découvrir le monde rural. Bon, au Figaro Agricole, on circulait à travers toute la France, très rapidement, effarant, nombre de kilomètres qu'on faisait par mois. Notre sujet, c'était le monde rural, l'agriculture, etc. Mais c'était assez superficiel, tellement il fallait faire vite. Puis ensuite, je me suis retrouvé journaliste au niveau régional, Bourgogne. Et là, j'étais beaucoup plus proche des gens. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir ces nuances d'une région à l'autre. Et
la cerise sur le gâteau.
Exactement, la cerise sur le gâteau, le terme que je cherchais, ça a été ces 10 années que j'ai passées après avoir décroché un éditeur qui s'appelle Solar pour faire des guides de randonnée. Et là, nous avons décroché, mon cheval et moi, puisque pendant 10 ans, j'ai circulé à travers tous les chemins de France avec mon cheval, tout à cheval, et nous débarquions dans les pays, comme je dis souvent, par la porte de derrière. On débouchait par le chemin, le vieux chemin au coin duquel il y a une croix de bois qui a été plantée là. Et je peux vous assurer que plusieurs cavaliers qui traversent un village, le village est parfaitement indifférent, se détournent même. Un seul cavalier, tout le monde se tourne vers lui. Qu'est-ce qu'il fait là tout seul? S'il est tout seul, c'est qu'il y a une raison. C'est que...
La bonne cause.
Il n'est pas là simplement pour discuter avec les copains. Il regarde le pays. Et le dialogue s'établit. Et là, j'ai eu un dialogue avec les gens de toutes ces régions que j'ai traversées, qui est tout à fait exceptionnel, fantastique. Et j'en garde un souvenir. Donc pour moi, ma vie, c'est trouver de goût. Je l'ai fait par goût, bien sûr. Mais en même temps, les événements ont fait que j'ai toujours... baigné dans ce monde rural et je l'ai toujours beaucoup, beaucoup apprécié.
Alors, vous ne vous interdisez aucun genre, notamment un voyage en 2000... Alors, le livre sort en 2004, vous découvrez ce qu'on appelle les Esquimaux familièrement, mais en fait, il faut dire...
Non, le terme Esquimaux, il est dépassé. C'est pas qu'on les appelle familièrement, c'est que c'était un mot qu'on a utilisé pendant longtemps, jusqu'au jour où on s'est aperçu que c'était un mot trivial chez eux, littéralement. Ce sont les Inuits.
Et là, vous en avez fait un carnet de voyage.
Oui, grâce à Gérard Gauthier, l'éditeur de mon premier roman, Le vol de la buse, j'ai eu l'occasion de faire un voyage assez fantastique, tout seul, là-haut, chez les Inuits, grâce au ministère des Affaires étrangères qui m'avait accordé cette bourse. Et je suis resté 4 mois à aller d'un pays à l'autre. Il y a 24 000 habitants sur un territoire qui est aussi grand que la France. Ça donne une échelle. C'était pour moi le début d'Internet. En 2004, l'Internet n'était pas encore tellement développé. Et j'avais réussi à m'équiper de façon à envoyer mes impressions à tous mes amis, à tous les gens qui s'intéressaient. Et c'est effarant le nombre de gens qui s'intéressaient d'ailleurs. J'en étais sidéré moi-même. Tous les jours, j'arrivais à envoyer un petit compte-rendu de mon... C'était mon journal.
Une petite chronique quotidienne, une sorte de blog en fait.
Maintenant, on appellerait ça un blog. Je pense que c'était plutôt un journal à l'époque. Peu importe. Et c'est effarant le nombre de gens qui ont réagi très fort. Et un beau jour, je reçois un mail, alors là, un courriel, comme on dit maintenant, d'un certain Gérard Gauthier, donc l'édition de l'Armançon, me disant « Je publie ». Qu'est-ce qu'il publie ? Je publie quoi ? Je dis « Mais qu'est-ce que vous publiez ?» « Mais je publie vos petits comptes rendus de tous les jours, ça fait un carnet de voyage extraordinaire. » Et c'est lui, donc, qui a eu l'idée de cette publication. Ce carnet de voyage a dû paraître en 2005. Sous le titre
Les
Nouvelles Inuits, bien sûr. Les Nouvelles Inuits, pendant que je préparais un roman, qui était prévu dès le départ d'ailleurs, hein, qui lui est paru chez Anne Carrière, en 2006 si je me souviens bien, et qui s'appelle Inukshuk. Alors Inukshuk, c'est un mot inuit qui veut dire l'homme de pierre.
Et qui a une signification particulière dans la civilisation
oui,
des Inuits.
C'est à la fois des bornes et des lieux de culte, les Inuits, les Inukshuk, qu'on retrouve un peu partout là-bas. Et c'était souvent, ce sont des constructions schématiques en pierre, toutes similaires, ils arrivent à ce qu'elles se ressemblent toutes. C'est un homme dressé, les bras en croix. En fait, à l'origine, ces Inukshuk devaient faire peur aux rennes, aux caribous, pardon, caribous, là-bas sont les caribous. C'est la même chose, mais c'est le nom canadien. Aux caribous qui chassaient, ça devait les contenir sur les endroits où ils voulaient les emmener, parce qu'on voyait vaguement une silhouette humaine, et les caribous n'y allaient pas, bien sûr. Et peu à peu, l'Inukshuk est devenu une sorte, on ne peut pas dire de monument religieux, c'est trop fort. c'est trop fort. Mais on vénère tout de même pas mal les Inukshuk, il y en a partout. Partout, et c'est devenu un symbole du peuple inuit, comme nous on a notre coq un petit peu, si vous voulez, ça se ressemble.
Est-ce qu'on peut dire que Gérard Gautier vous a mis le pied à l'étrier avec votre premier roman? Oui. Parce que Le vol de la buse aurait pu être accueilli peut-être par un autre éditeur à l'époque.
Tout à fait. Il se trouve que c'est lui qui l'a pris et qui l'a bien valorisé, ça c'est certain. C'est bien grâce à lui donc que j'ai pu démarrer. Et puis je lui ai joué un très vilain tour en le laissant tomber, parce qu'aussi sec, bien sûr, il y a un éditeur national qui est venu me chercher. Et cet éditeur national, c'était la même maison que Solar, mes guides de randonnée. C'était publié chez Solar. J'avais mis 12 ans à trouver un éditeur pour mes guides de randonnée, là, sans aucun rapport avec Gérard Gautier. Et cet éditeur, c'est donc Solar, avec qui je commençais à travailler, qui a trouvé que mon voyage chez les Inuits était passionnant. Ils en ont parlé aux presses de la cité, roman, et ils m'ont demandé des romans. Et ça, c'était le premier, c'est Les Labours d'hiver est paru en 95 aux presses de la cité. Sauf erreur de ma part, on est en 2021. Je travaille toujours avec les presses de la cité, même s'il y a eu des moments de blanc entre les deux.
Alors, effectivement, les tout derniers, c'est un roman chaque année, Didier.
Oui, Cornel. Maintenant, oui, c'est le rythme que je cherche à tenir, et j'y arrive sans trop de mal à faire un roman par an que nous faisons paraître. Et ça, c'est une habitude qui s'est prise plus qu'autre chose en début d'année, février, mars, parce qu'il y avait. Il y a ou il y avait? Que doit-on dire? La fête du livre d'Autun, je faisais comme ça, c'était la première de ce bouquin réservé à Autun. Les gens d'Autun appréciaient beaucoup.
La fête du livre d'Autun, que vous avez contribué à mettre sur pied à ses débuts. Hein.
Oui, oui, c'est pour laquelle j'ai beaucoup, beaucoup travaillé au début avec des gens comme...
Rémi Rebérot, par exemple.
Rémi était le maire. Non, il n'était pas maire d'ailleurs. Il n'était pas encore maire. Il est devenu après. Non, non, dans l'équipe, il y avait des gens comme Henri Guibourg, par exemple. Je prends lui comme exemple. Moi-même, je peux dire que c'est un vieux monsieur. Ça peut vous dire qu'il est vieux, hein, s'il est encore plus vieux que moi, hein, Henri. Il serait là, il rigolerait. Et Henri a énormément travaillé sur la fête du livre. Mais d'autres, comme Thomas Thévenoud, ça vous dit peut-être quelque chose, Thomas Thévenoud.
De nom.
De nom politique, qui a eu quelques ennuis. À qui je garde toute mon amitié, mais c'est un autre sujet. Thomas a beaucoup travaillé avec nous, et d'autres comme ça. On était une petite équipe, on était combien? 7-8 pour créer ça. Je vous assure que pour créer une fête du livre, il faut bien être 7 ou 8 gens connaissant bien le milieu et introduits dans le milieu.
Alors, il y a de grandes chances cette année qu'il n'y ait pas de
fête. Pas qu'il y a grande chance, c'est qu'elle
n'aura pas lieu. Il y a deux grandes fêtes du livre en Bourgogne. La fête du livre d'Autun, et livres en vigne en Côte d'Or au château du Clos de Vougeot.
Chacune dans sa catégorie, se complétant bien, je crois. Et tout à fait un genre différent. Et malheureusement, alors que le Clos de Vougeot a réussi à avoir lieu en septembre dernier, fin septembre dernier, cette année, la fête du livre d'Autun n'aura pas lieu. Ça, on le sait maintenant, c'est acquis, malheureusement. Et c'est grave.
Et puis, Didier Cornail, on va marquer une première pause musicale. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui notre invité pour votre dernier roman. On en parle, bien sûr, même. Après. Gentil Claudine, sorti le 11 février.
Non,
Gentil
Blandine,
pardon. Lapsus, parce que ma mère a ce prénom Claudine.
Ah bon, voilà.
Gentil Blandine. Et c'est aux presses de la cité, sous la plume de Didier Cornail. Et puis, Didier Cornail, aujourd'hui, samedi 13 mars, s'ouvre la 23e édition du Printemps des Poètes. Mmh. C'est jusqu'au 29 mars. Et savez-vous quel est le thème retenu cette année? C'est le désir. Voilà.
Oh, alors là.
Toute une histoire.
Pourquoi on ne l'avait pas dit avant? Je m'y serais mis, j'aurais écrit.
Alors, il y a justement, j'encourage chacune et chacun à aller sur le site Printemps des Poètes sur Internet. Et j'ai relevé cette très belle citation d'un poète qui s'appelle Asli Erdogan. Sans doute est-il
bien
turc.
Oui, oui, Asli Erdogan, elle est turque.
L'homme.
Et aucun rapport avec M. Erdogan, le président de la Turquie.
Effectivement.
Même nom, mais homonymie.
Et alors, j'ai trouvé, livré par le site du Printemps des Poètes, cette citation d'Asli Erdogan, l'homme coquillage chez Actes Sud. Mais je sais maintenant que s'il est facile de réprimer le désir, l'oublier est impossible. On marque une première pause musicale. C'est Didier Cornail qui est aujourd'hui à bord de Wagon Livre sur Radion. Chris.
fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils louent de leurs bras, elles rient de bonté. Tic-tic-tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Et dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te sera mes amours déçus. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachure. T'es qui de la monnaie pas défendue. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps menti entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi?
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Didier Cornaille, Gentille Blandine, c'est le titre de votre dernier roman, sorti le 11 février dernier aux presses de la Cité. Alors présentez-nous cette Blandine, c'est bon, une adolescente.
Blandine, tout le monde a une Blandine dans son entourage, vous connaissez tous une Blandine. Gamine, 15-16 ans, plutôt mignonne, délurée comme il n'est pas permis, sûre d'elle, n'ayant pas... pas du tout l'intention de se laisser marcher sur les pieds, voulant faire qu'à sa tête, et Blandine, qui habite dans un petit village, qui craint un petit peu l'ambiance du village, hein, c'est pas toujours gay, une ambiance du village. Et bien Blandine, elle s'est pris de passion pour le VTT, et elle va se promener dans les chemins à VTT. Bon, jusqu'au jour où on s'aperçoit qu'elle va y retrouver un petit copain. Et quel petit copain ? Alors là, je vous laisse faire.
Alors, Didier Cornaille, en fait, justement, il est beaucoup question de la passion du VTT dans ce dernier roman. Pour placer l'intrigue, ce sont des jeunes gens de la région parisienne qui pratiquent le VTT dans les forêts aux alentours de Paris, mais qui se font toujours gronder, disputer, parce que ils vont trop vite,
ils vont écraser les gamins, voilà, etc.
Et finalement, une des jeunes filles du groupe dispose en fait de souvenirs très forts dans le Morvan et les invite à aller s'initier chemins.
Pourquoi vous râlez après vos chemins où il y a tellement de monde ? Il y en a des chemins où il n'y a personne. Moi, je me souviens des chemins que je faisais avec mon grand-père. Une fille, ça c'est pas parler des chemins, c'est pas vrai. Alors il réagit comme ça. Eh ben t'as qu'à y venir, je vais te les montrer moi les chemins. Et les chemins, c'est ce qu'on appelle à travers dans le Morvan, ça c'est courant, c'est une levée de colline assez forte, souvent derrière un pays ou choses comme ça. Et dans ce travers, il y a une quantité de chemins fantastiques, ils n'arriveront jamais à tout faire, et ils se lancent là-dedans. Et là, il n'y a personne.
Et ces chemins, ce sont des chemins peu praticables, en tout cas, au moment où ils les découvrent. Enfin,
ce sont des chemins.
Ce sont des chemins.
Donc des chemins, ben, y a des ornières dans les chemins. Hein. Puis un petit peu de broussailles s'il n'a pas été pris depuis un certain temps. Mais ce sont des chemins, quoi, c'est tout. On fait du sport. Descendre tout le travail en VTT, c'est du sport.
Certes, néanmoins, vos jeunes Parisiens s'approprient les chemins et ne se préoccupent pas trop de savoir
ils
à qui ils appartiennent, s'ils ont le droit de serpenter comme ça.
Ils n'ont pas du tout cette idée-là. Ça ne les effleure même pas. Ils voient un chemin, ils s'y engagent. Je ne cache pas que je suis un petit peu comme ça, moi. Je vois un chemin, je m'y engage. Le tout, c'est qu'il aboutisse quelque part. Mon cheval aurait pu vous le raconter. Le nombre de fois où il était obligé de faire demi-tour parce que ça ne passait pas, ces jours-là, il n'était pas content et il me le montrait. Et donc, il s'engage dans ces chemins. Et là, les chemins, ils aboutissent. Et ils sont tout à fait à leur goût. L'idée, ils prennent une route. Ils ne vont pas demander à qui appartient la route. Donc, avoir l'idée d'aller dire, mais ce chemin, est-ce que j'ai le droit d'y passer ? À qui appartient-il ? Elle ne leur vient même pas. Eux, ils voient que c'est... D'autant plus qu'ils sont encouragés par quelques personnes du pays, dans le hameau, les Bouveaux, qui sont au pied de ce travers, où il y a le vieux Octave, qui est tout content de les voir débarquer, parce qu'il est seul, il s'ennuie, le vieux Octave. Alors, ça va lui changer de sa solitude, ces jeunes. Et c'est lui qui leur indique beaucoup de ses chemins, sans se mêler de savoir si... La plupart de ces chemins sont de passage public. Ils ne sont pas tous communaux, ni rural, comme on dit, hein, ruraux. Mais ils sont tous presque de passage public. Les chemins qui ne sont pas de passage public sont vraiment l'exception. Donc ils n'hésitent pas, ils foncent.
En tout cas, ceux qui empruntent et utilisent désormais ces chemins, ce ne sont plus du tout les mêmes personnes, parce qu'à un moment, Octave explique quand même à Isabelle, il dit, c'était notre gagne-pain. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une vie dans les forêts.
Oui,
une vie professionnelle, encore maintenant.
Mais plus du tout de la même façon.
C'est pas.
Exactement comme en agriculture, où je dis, s'il y avait 15 personnes pour récolter 2 chars de foin, maintenant, il y a un tracteur qui passe avec une presse derrière, bon, ils ont un clampin. Et bien, pour le bois, c'est la même chose. Tout ça, c'est concentré avec les moyens techniques qu'on a maintenant entre quelques hommes. Un point, c'est tout. Et la forêt, c'est ça. Alors, avant, c'est vrai qu'on circulait beaucoup plus par les chemins, par nécessité. D'abord, il n'y avait pas de route. Et par nécessité. Et puis, on allait d'une propriété à l'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chemins, parce qu'il fallait les desservir, toutes ces propriétés, pour aller y faire du bois de chauffage. Hein, et il y a des chemins dans tous les sens. On ne sait plus très bien s'ils sont communaux. Quelle importance, en fin de compte.
Et c'est pour Sauf pour certains. Dans le village, dans les hameaux.
Oui, il y a qui donne de l'importance à ça, mais en fait, ça n'en a pas. Qu'il y ait 10 vététistes qui y passent à fond la caisse, comme ils disent eux-mêmes, ou qu'il n'y ait personne, bah, le chemin, il reste le même.
Hein. En tout cas, le séjour durant le week-end de ces jeunes Parisiens sympathiques, ils ont entre 25 et 30 ans, sont des jeunes actifs, ils viennent se ressourcer dans le Morvan, mais ils viennent, pour utiliser une expression familière, ils viennent aussi s'éclater, ils vivent un petit peu dangereusement sur les VTT.
Dangereusement, c'est... Bon, on peut toujours avoir l'accident, c'est vrai.
C'est évident, hein. Oui.
Mais ils aiment prendre des risques.
Et alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'ils rencontrent, vous en avez parlé, ils rencontrent Octave, qui est effectivement un homme d'un âge, qui lui est ouvert à ces jeunes gens, ce qui n'est pas le cas d'une majorité pas si silencieuse que ça dans le village, mais qui s'agace, se révolte, s'indigne contre ces Parisiens
d'où
qui viennent les envahir. Et ils sont, oui, qui sont-ils
d'où sortent, sont des étrangers. Mais qu'est-ce qu'ils font là, hein, à prendre nos chemins. Il y a des gens qui n'ont jamais pris le moindre chemin, mais ce sont tout de même leurs chemins.
Mais y a-t-il... Alors, Didier Cornaille, c'est pareil. Dans votre roman, vous présentez cette génération de vieux morvandiaux très attachés à leur terre, qui ne veulent pas la partager, et qui se montrent peu accueillants. Ça existe, ça ?
Bon, particulièrement dans le Morvan. Évidemment, dans des régions comme celle-là, qui quelquefois se cherchent à voir à quoi elles servent, économiquement parlant. Il faut le reconnaître. Hein. La question prend d'autant plus d'importance qu'au fond, on se dit, est-ce qu'à la prochaine génération, on sera encore là ? C'est inquiétant tout de même. Dans les régions où l'avenir est assuré, parce que les qualités des terres, etc., en région comme la mienne, comme le Cambrésis, la mienne d'origine, ça ne se pose pas de la même façon. Hein, parce que là, on sait qu'on y restera. Alors bon, ils veulent pas prendre les chemins, on y mettra le frein de ces jours, mais on s'en fout au fond. Alors que là, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent créer quelque chose. Ils vont nous doubler, parce qu'on a peur d'être doublés. Et puis, il y a cette ferme dont nous allons parler, qui est sur le côté, qui est un vilain exemple d'exploitation hyper productiviste, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Puis les gens se gardent bien de dire ce qu'ils font, bien sûr. Et on en a peur. Et on a peur d'incommoder ces gens-là. Donc, d'où raison de plus pour écarter ces jeunes. Faites du bruit, écartez-vous, vous nous embêtez. Hein, c'est tout.
Alors, Isabelle, c'est elle qui est un petit peu, disons, la guide. C'est elle qui fait découvrir. Avec,
oui, c'est ça. Oui.
Elle renoue avec un passé, avec une enfance rustique, dans ces chemins qu'elle a connus petite fille. Et puis, il y a plane l'ombre. D'un personnage qui est né dans votre premier roman. Alors bien sûr, il est mort, hein, il a quitté ce monde, mais...
Toujours là, le tien.
La belle image du tien, parlez-nous et présentez-nous le tien, Didier Cornaille.
Qu'est-ce que je dois dire du tien? Bon, d'abord, le tien, allez, autant que je le dise, comme ça, ce sera dit, il a bel et bien existé. Je dirais même qu'il m'a accueilli ici, à Hanau, il y a maintenant très longtemps, je préfère ne pas dire. C'est il y a 45 ans, quoi, on peut le dire après tout. Et le tien, ça a été un des tout derniers galvachés. Vous savez, galvachés, c'est ces braves mendiants qui partaient gagner leurs sous ailleurs parce qu'ils ne gagnaient pas suffisamment chez eux. Ça a disparu à l'entrée de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Après la guerre, il n'y en a plus. Mais il avait connu la galvache. Et il avait une connaissance de son pays, un savoir de son pays, ce vieux bonhomme fantastique. Lui et sa femme. Et sa femme, elle complétait ça d'une très mauvaise vue. Elle lisait tout avec une énorme loupe. Alors on arrivait chez eux, il y avait une énorme loupe posée sur la table, elle était toujours là, la loupe. Et ces gens-là, c'était des éponges. Tout ce qu'ils lisaient, ils le retenaient. Et lui, le tien, il me l'a dit très franchement, il a dit, mais oui, le jour où je vais mourir, qu'est-ce que ça va devenir? Et ils m'ont vu arriver, quand je suis venu m'installer dans le Morvan. Et il a vite compris que ça m'intéressait énormément, tout ce passé, cette histoire du pays. Et il s'est dit, mais il me l'a dit très, comme je le répète là, parce que c'est lui qui me l'a dit au départ. Il s'est dit, je vais lui passer tout ça. Et lui, il va en faire quelque chose, parce que journaliste, etc. C'est en partie vrai. J'ai eu un énorme plaisir à valoriser ça. C'est donc le lien, et ce tien, bah, je termine ce que je disais, ce tien a eu énormément. C'est l'homme de confiance. Il y a encore dans les villages des gens comme ça qui sont l'homme de... ne sont pas élus. L'élection ne rentre pas en ligne de compte, là. Mais ce sont des gens qu'on connaît tellement bien, on sait qu'on peut leur faire confiance.
Une référence morale ?
Référence morale, tout à fait. On a un problème, on va poser le problème à celui-là. Il va répondre et sa réponse, on va suivre son conseil. Et le tien, quelquefois, quand il y a une bibi quelconque avec des voisins, choses comme ça, il se pose en chef à ce moment-là. Et il agit, ce qui est le cas du tien, dans Le vol de la buse.
Voilà, votre premier roman paru en 1991.
Et qu'on
redécouvrira en septembre 2021.
Il va paraître. Les presses de la cité me font le grand plaisir de le rééditer à l'identique en septembre prochain.
Et ça, c'est formidable.
Ah, ça, c'est super. Et donc, le tien, c'est un vieux bonhomme, mais il voit arriver à l'époque des gens qui. Un géologue. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, il s'inquiète, il va chercher. Je passe sur les détails, parce qu'on pourrait y passer du temps.
Oui.
Hein. Mais il va vite s'apercevoir qu'il y a un risque dont on leur a parlé. Personne ne va leur confirmer ou leur infirmer. On parle rien de moins que d'une mine d'uranium, parce qu'il y a de l'uranium dans le Morvan, ça sera pour un autre sujet. D'une mine d'uranium et de deux grandes réserves d'eau, parce que le bassin parisien a besoin d'eau. Et c'est une rumeur. Personne ne leur confirme, personne ne leur explique. C'est là où est l'erreur, d'ailleurs. C'est une rumeur, et la rumeur, il n'y a rien de plus dangereux. Parce que ça prend de l'ampleur, et ça devient incontrôlable. Et c'est le cas, en la matière, par le contrôle. Et le tien essaie au maximum de faire dire aux gens, ce qu'ils font, aux géologues, et aux autres, ce qu'ils font là, avec des épisodes, je vous en passe les détails, hein. Et ça se termine mal parce qu'il y a une dame qui se suicide parce qu'elle a cru comprendre que sa maison allait être inondée. Elle s'est imaginée sous la flotte littéralement.
Elle n'a pas supporté l'idée de l'expropriation et de voir son environnement disparaître complètement.
C'est la rumeur. Or là, dans Blandine, dans celui qui vient de paraître, se crée une autre rumeur autour de ces vététistes-là. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais voyons, ce sont les précurseurs de ceux qui vont nous créer une station touristique de grande ampleur, qui vont créer, tenez-vous bien, un énorme téléphérique qui remontera au-dessus des forêts jusqu'à la crête, et tout en haut, il y aura...
Ah oui, un restaurant.
Un restaurant panoramique. Ouais. Et à partir de là, tout le monde part sur cette conviction que ça va sauver le pays, parce que ça va amener des sous. Mais en même temps, on regrette parce que ça va dénaturer le pays. Il y a les deux choses. Mais on ne peut pas s'opposer à un projet comme celui-là. Alors tout ce qui peut porter ombrage à ce projet qui n'a même jamais, s'il a existé. Il a existé dans un vilain rapport qui servait à trouver des sous, des choses comme ça. Mais ce n'était pas fait pour être réalisé. Et tout ce qui, dans la tête des gens, dans cette rumeur, pourrait être de nature à gêner la réalisation de ce projet fantastique... Surtout, il faut l'éviter, on va mécontenter les gens de la grande ferme, là. Et raison de plus pour être contre les vététistes.
Mais dans le vol de la buse, Tienne se révolte. C'est un homme d'action, jusqu'au boutiste, tout de même. Parce qu'il commet une action qui pourrait lui...
Il ne se révolte pas, il défend son bon droit.
Oui.
Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il est convaincu de son bon droit, dans sa façon très simple, très primaire... de l'envisager, et il le défend jusqu'à contraindre le géologue à un emprisonnement assez long. Enfin,
oui, une sorte, on ne va pas trop en dire, mais quelque part, le Tienne du vol de la buse, il est aussi jusqu'au boutiste que les zadistes de ceux qui se sont battus d'une certaine manière.
C'est toujours la même chose. Les moyens sont différents, mais les rumeurs, elles sont toujours là. La rumeur, il n'y a rien de plus dangereux.
Et d'ailleurs, c'est vrai que dans la pièce, le Barbier de Séville, il me semble qu'il y a un moment, il y a un des personnages qui fait l'éloge de... Alors, la rumeur et la calomnie aussi, justement, en disant... C'est deux choses différentes. Mais la rumeur, c'est très dangereux. D'ailleurs, on le vérifie encore un petit peu dans certains faits divers.
Ça arrive à tout bout de champ, parce que c'est de nos jours comme c'était dans le passé. À partir du moment où un bruit court, qu'il est admis par beaucoup de gens, qui vont l'interpréter, comme il n'y a pas de base solide, il n'y a pas de... chacun va l'interpréter à sa façon. Et donc cette rumeur, elle va avoir 10 formes différentes qui vont devenir antagonistes ou qui vont s'additionner, on ne le sait pas.
Alors on va marquer une nouvelle pause musicale. C'est Didier Cornaille qui nous accompagne pour évoquer Gentille Blandine, son dernier roman. Et puis Didier Cornaille, j'informe celles et ceux qui nous écoutent ou là, aujourd'hui, en direct ou en podcast sur le site yannickpetit.fr, que le 20 mars, samedi 20 mars, vous êtes en Côte d'Or à Semur en Aussois,
chez Cyril Lefebvre,
la librairie de La Poste. Le 15 mai, vous êtes toujours en Côte d'Or, là, vous êtes à Saulieu, à la librairie Maison de la Presse.
Donc, Thibault.
15 mai.
De mon ami Michel Thibault.
Et vous serez, alors, dans votre département, la Saône-et-Loire, à Autun, le 22 mai, pour une dédicace toujours.
C'est presque ma librairie, ça. Hein, chez Evelyne Levallois, qui nous a fait une très belle librairie.
La promesse de l'aube. Autun. On marque petite virgule musicale et on se retrouve juste après, toujours aux côtés de Gentille Blandine.
Voilà, mais il faut faire vite. Hein. I know you thought I'd never be really much of anything while you were telling me I turned against the wind. When my eyes started to burn and you turned your back on me, well, you see, I slipped away. Now turn to me, 'cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come cry to me, don't come try. Don't come.
assume the things they go your way. It would all just carry on while you see it slipped away. Now turn to me. Yes, I've done 100 things you've only dreamed.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Didier Cornaille, gentille blondine qui tombe amoureuse d'un de ces jeunes Parisiens. Le désir, hein.
Un chevelu. Comme disent les gens au café du coin, les chevelus. De quoi qu'ils font là, ils sont pas d'ici, eux sont des étrangers. La petite blondine, elle voit pas ça, elle.
En tout cas, ces jeunes gens vont très rapidement. Alors, ils campent dans un premier temps, hein. Et puis ensuite. On trouve un gîte, une maison plus confortable quand même.
Mais quel gîte oui. Pas confortable, non, parce qu'elle est fermée depuis très longtemps.
Trop, oui.
Mais c'est la maison du tienne, on y revient. C'est là qu'a vécu et est mort le tienne. Donc la petite, la copine du départ, là, elle s'y retrouve parce que c'était la maison de son grand-père. Alors la maison, elle est un peu vieillotte, il n'y a pas grand-chose dedans. Ils vont meubler ça de briques et de broc, ils vont ramener ça sur le toit des voitures, dans le coffre des voitures en descendant de Paris, et ils vont en faire un gîte d'étape. Scandale dans le pays. Qu'est-ce que c'est que cette moralité dépravée là-haut au Bouveau? Et puis le vieux Octave, qui lui est toujours très content de ce qui se passe dans le pays. Et surtout, c'est un outrage au tienne, au souvenir du tienne. Octave, il ne prend pas du tout ça comme ça, lui. Au contraire, il est très content.
En tout cas, le tienne, tel que vous le présentez dans Le vol de la buse, le tienne est un philosophe en son genre. Il sait bien que le monde dans lequel il a vécu est définitivement mort et qu'il est l'un des derniers de sa race. Donc, là où se trouve le tienne, il doit plutôt être content de cette agitation de jeunes gens dans sa maison.
Bien sûr, je pense qu'il est très malheureux que ça, là où il est, hein, que sa maison ne soit plus utilisée. Et le jour où elle retrouve une utilisation comme ça pour toute une bande de joyeux drilles, à qui ça peut faire passer la nostalgie de leur ville, etc. Il en est très content.
En tout cas, on a parlé dans ce paysage des Bouveaux, dans ce hameau où se situe l'action de votre dernier roman et qui attire donc ces vététistes qui découvrent ces chemins dans le travers. Il y a une famille importante aussi. Parce qu'elle a été, alors, comment dire, elle a été contrainte aussi de se lancer, je vous laisse peut-être.
Oui. Les Viaudes, c'est pas au Bouveau, c'est au Viaudes.
C'est les Viaudes,
cette fois-ci. Un autre hameau, mais enfin, c'est pas bien loin. C'est de l'autre côté de la vallée, là, le long de la rivière, ça se voit, là, on voit les grands bâtiments. Bon, c'était la grosse ferme, de toute façon, déjà, c'était la ferme relativement importante. Les fermes importantes de jadis, elles sont plus grand-chose maintenant. Hein. Et face à la rumeur qui a fait que tout le monde s'est mis à vendre ses terres, etc. Pierre Tricot, qui tenait cette ferme, tout jeune agriculteur du temps du tienne, s'est rebellé, s'est endetté pour empêcher que des investisseurs nulle part rachètent toutes ces terres dont ils ne sauraient que faire. Et il se retrouve peu à peu coincé par la banque. La banque lui a prêté l'argent sans hésiter. Et puis quelques temps après, il a dit, c'est très bien de vous avoir prêté, maintenant il faut rembourser. Et il se retrouve maître de cette ferme. La banque, la finance, pour prendre un terme plus général, se retrouve maître de cette ferme. Et ils vont en faire une ferme productiviste en diable, vous voyez ce que c'est. Bon, dans le Morvan, c'est assez peu envisageable. Mais bon, on est dans le roman, on est dans la fiction. Hein. Et c'est par opposition au village qui, lui, vit de ses traditions et de ses vieilles habitudes. Hein. Ils vont en faire une ferme productiviste en diable, et un beau jour, ils vont arriver à écarter celui qui était le descendant des agriculteurs, le Pierre Tricot. Il va être écarté au moment où il prend sa retraite, mais il va garder énormément d'influence. Et là, j'en dis pas plus.
Alors, il faut aussi toujours rappeler que dans vos romans, vous montrez toujours l'évolution du monde agricole, c'est-à-dire que le machinisme, l'arrivée des tracteurs a tué sans doute la galvache.
Des tracteurs, des engrais et tout le reste. Hein.
Voilà. Et toute cette évolution, tous ces progrès techniques dont on revient un peu aujourd'hui peut-être. Mais
comment faire marche arrière? Parce qu'il faut nourrir la population. Oui. Ça, le problème est simple. Bon. Mais on ne peut plus, c'est pas qu'on ne veut plus, c'est qu'on ne peut plus jouer avec la consommation de pétrole, la consommation d'engrais, la consommation surtout de pesticides, tel qu'on l'a fait sans aucune mesure, sans rien du tout. Parce qu'on sait qu'on va à la catastrophe, et on l'a décrit la catastrophe, donc on peut plus jouer avec ça. Ceci étant, il y a toujours la même population à nourrir,
oui.
Et le problème est toujours là.
En tout cas, les machines, et c'est dans le vol de la buse. J'aime beaucoup, c'est dans le vol de la buse. C'est à la dernière page de ce roman. Les machines, ça remplace les bras, pas les cœurs. Et Gentille Blandine, c'est un hymne.
Au cœur.
À la convivialité, au partage, à cet amour de la nature que l'on respecte. Et puis à...
Au nez et à la barbe de cette ferme qui ne respecte pas, qui ne tient pas compte des cœurs. Et évidemment, les rapports ne peuvent pas être bons. Et si rien ne se passe du côté de la ferme, personne ne s'érige contre les vététistes, on pousse en douce. Et les gens du pays, pour ne pas froisser... Les grands investisseurs, là, il faut les garder, les investisseurs, hein, sont eux qui, paraît-il, veulent créer un téléphérique et un restaurant panoramique.
Oui.
Ce qu'ils n'ont nullement l'intention de faire, entre nous soit dit. Hein. Il ne faut pas les vexer, ces gens-là. Alors, on prend leur parti.
Mais les petits jeunes parisiens qui viennent chaque week-end de plus en plus nombreux avec leur VTT, animer le hameau, mais aussi se faire plaisir et... redonner vie à la maison du tien qui devient très vite un gîte, sont aussi victimes de leur succès. C'est toujours un peu le danger.
Et voilà, on dépasse les limites, comme on a dépassé les limites avec les pesticides ou tout ce que vous voudrez. Mais eux, ils s'en rendent compte. Du moins, les quelques responsables, ceux qui ont lancé ça. Et ils vont chercher tous les moyens de ramener ça dans la règle, en tous les cas.
À quoi ? À dimension plus humaine ?
Ils vont être obligés de poser des barrières. Ça va devenir payant. Avant, on arrivait, je viens m'héberger là, bah vas-y mon gars, installe-toi. Maintenant, bah oui, mon gars, tu vas t'installer, mais tu payes tant d'abord. Et tout à l'avenant, il y a des règles à respecter que même les jeunes vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à accepter. Mais ceux qui sont les fondateurs, le noyau des fondateurs, il va tenir bon et ils vont imposer ces règles et ça va marcher.
Alors, dans le Morvan, quand on dit le Morvan, il ne faut pas oublier, ça désigne une entité géologique qui...
Le granit.
Qui couvre 4 départements de la Bourgogne.
Non, hein. non, ça ne couvre pas. Ça prend...
Le cœur.
Une petite partie de 4 départements de Bourgogne. Ce sont les départements de Bourgogne qui empiètent sur le Morvan. Hein.
Le Morvan, c'est bien un cœur de granit avec de la forêt autour.
Dedans, dessus,
oui.
C'est du granit.
Oui.
J'ai publié en 2018, si je ne me trompe, ou 19, un petit bouquin qui s'appelle « Les petits pays de France », dans lequel je fais le répertoire complet des pays de la France. C'est la géologie qui détermine pour l'essentiel la nature des pays. C'est pas toujours facile de discerner un pays d'un autre à côté de lui. Pour le Morvan, c'est beaucoup plus facile parce que c'est effectivement le granit. Géologiquement, c'est la roche primaire qui dépasse les marnes, les roches calcaires, etc. Et le granit, lui, c'est un ensemble très net. D'un endroit à l'autre, on est ou on n'est pas sur le granit.
En tout cas, le Morvan a joué la carte comme étant le lieu de rendez-vous des amoureux de la nature. À l'entrée de votre village, Anneau, il y a une grande pancarte pays de randonnée.
Oui.
C'est vrai ?
Oui, effectivement.
Hein, les pêcheurs, les randonneurs, les cavaliers, les vététistes aussi se donnent rendez-vous dans le Morvan, qui est effectivement un paradis pour eux.
Qui devrait l'être.
Qui devrait l'être ? Pourquoi ce conditionnel ?
Ce n'est pas le sujet de notre entretien, là. Non, je pense que c'est vrai que les chemins...
Il y a mieux à faire.
Et ça, les chemins, et je retrouve évidemment mon bouquin, c'est le matériel touristique qu'on pourrait développer en Morvan, comme on a développé le ski dans les Alpes, et la baignade, et puis la bronzette sur la Côte d'Azur. Nous, notre matériel, c'est ni le ski, ni la mer. Qu'est-ce qu'on a ? On a des chemins. Mmh. On a un réseau de chemins formidable. Et on ne l'a pas valorisé, c'est pas vrai.
Mais après, on peut toujours être victime de son succès. Trop d'affluence, ça abîme la nature, ça dérange.
Dans le moment, on n'a pas été victime de son succès. Certainement pas.
Donc il y a encore...
Oh oui, il y a encore des grandes possibilités.
Donc il y a des gens qui freinent. Les populations, peut-être comme ceux des hameaux qui n'ont pas trop envie.
Eh bien,
envie.
Écoutez, je suis désolé, là vous me poussez dans mes retranchements. Ce n'est pas la population qui freine, c'est l'administration. C'est les règles qu'on nous impose de partout, qui au départ ne sont pas nécessairement mauvaises, en tous les cas, qui partent d'une bonne intention, mais qui ne sont pas faites pour le pays. Elles sont faites en général. Or, la situation d'un pays du Morvan est totalement différente d'un pays d'une autre région, je vois des Charentes ou de je ne sais où. Donc la règle qui descend de là-haut, elle ne peut pas s'appliquer en l'état. Elle devrait pouvoir être adaptée. Parce que de toute façon, chez nous, ça ne marche jamais, comme on dit ici. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas adapter. Et c'est ça le drame, et qu'on n'a jamais fait l'effort de suivre les expériences qui pouvaient se faire dans les chemins. Là, je vais pas plus loin parce que j'ai parlé de ma cause. Alors j'ai pas...
Bon, en tout cas, survivance d'un jacobinisme qui écrase un peu les provinces. Quoi.
Voilà, franco-français oui. Et centralisateur en diable.
On marque une dernière pause musicale et puis on se retrouve après pour le petit mot de la fin. Je rappelle que c'est Didier Cornaille qui est aujourd'hui devant le micro de Wagon Livre pour son dernier roman, Gentille Blandine, aux éditions des Presses de la Cité.
Oh,
spoken. The only sound we hear is body talk.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Didier Cornaille est avec nous dans ce Wagon Livre pour nous présenter Gentille Blandine, son dernier roman sorti il y a un bon mois maintenant aux presses de la Cité, dans la collection Terre de France. Gentille Blandine, bien sûr, c'est une histoire de jeunes Parisiens qui viennent faire du VTT dans le Morvan. On pourrait penser le sujet anodin.
Il l'est peut-être.
Néanmoins,
mais pas tout.
Néanmoins, Didier Cornaille fait aussi passer des messages en filigrane. Il faut lire Didier Cornaille entre les lignes. Et justement, Bernard Lecomte dans La Bourgogne pour les nuls, puisqu'il y a une entrée, j'allais dire, consacrée à Didier Cornaille, dit de vous: défendre le terroir, en préserver les sources et les coutumes, perpétuer la sagesse des hommes, voilà ce qui motive Cornaille, attaché à son village d'Anneau comme à un trésor de granit.
Trésor, non. Au contraire, c'est parfaitement banal. Mais c'est ça que je défends, c'est sa banalité. C'est le fait que c'est le monde rural, tranquillement, sans... Bon, le problème, s'il y a à le défendre maintenant, c'est qu'on a, entre le pouvoir de décision et ses pays... Il se trouve que là, c'est le Morvan, mais ça pourrait être un autre pays. Hein. Je connais assez bien les Charentes-Maritimes où habite une de mes filles, et je sais que le problème se pose le long de la Charente de la même façon. On a établi des tas de filtres, des tas de barrages. Pas méchant, hein. Ça part d'un bon sentiment quand on prend une grande décision là-haut. Ah, ça va leur faire plaisir. On ne veut pas comprendre en France que, je parlais des Charentes, le problème du chemin, hein. Passage dans les chemins, ben, il va se poser différemment en Charente, le long de la Charente que en forêt du Morvan. C'est normal, la topologie n'est pas la même, les investissements ne sont pas les mêmes, même les risques ne sont pas
les
mêmes.
La nature, l'environnement ne sont pas les mêmes.
Ne sont pas les mêmes, et les hommes par conséquent ne sont pas les mêmes. Et d'abord, il faut laisser les hommes juger de ce qu'ils peuvent faire. On peut les inciter, je ne suis pas contre, hein. Mais... derrière, il faut que ce soit eux qui agissent en fonction de ce qu'est leur pays. Par conséquent, Gentille Blandine, c'est effectivement une gentille comédie, quelque part. Si on ne prend que la surface des choses, hein, qui se passe dans ce village où ils vont sauter sur la gueule là, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils prennent les chemins ou ils ne prennent pas les chemins, c'est de la gentille comédie. Mais derrière, il y a qu'est-ce qu'on va... comment va-t-on vivre dans ces pays où les changements ont été d'une rapidité affolante? Le temps où bah, le fils succédait au père et ainsi de suite depuis le début des temps, bah, ça c'est fini. Et ça a été fini en combien de temps? En 40 ans, guère plus. C'est extrêmement rapide. Bon, c'est fini ça. Les exploitations n'existent plus. Il n'y a plus maintenant que des serres immenses. Et pourtant les villages, ils sont toujours là, je vous ferai remarquer. Ils sont toujours là et ils vivent toujours. C'est donc que quelque part, ils ont de la vitalité. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va y faire? Et tant qu'à faire, on va essayer que ce qui va s'y créer ne sème pas la zizanie entre les gens et rapporte quelque chose aux gens.
Parce que vos jeunes gens, mais ils déjà, ne font que passer, ils viennent en week-end, oui. Ils ne restent pas durablement, voilà. C'est ça, dans ce monde rural.
Ceux qui restent, qui disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce pays? Ce n'est pas ces petits jeunes qui passent avec leur VTT et font la caisse, là, qui vont solutionner notre problème. En fait, si, le tourisme, c'est un peu ça.
Oui.
Sous toutes ses formes.
Alors, hein. Ça redynamise un petit peu.
Et ça, il faut l'admettre. Mais l'admettre sans interférer avec tel autre, sans se brouiller avec tel autre encore. C'est ça qui est très difficile, retrouver un équilibre. Et encore une fois, ces villages, malgré l'exode rural qui a été une catastrophe épouvantable, c'est inimaginable, parce qu'à quel point on a vidé les pays. Bon, on peut penser maintenant que l'exode rural est fini. Faute de combattants, il n'y en a plus à faire partir. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Or, les villages, ils sont toujours là. Il n'y a pas encore tellement longtemps, des gens écrivaient noir sur blanc, j'ai des rapports de la Datar à ce sujet-là, disant les villages dans les zones rurales les plus reculées vont disparaître. Disparaître. c'est invraisemblable de dire que le lieu de vie des gens va disparaître. Eh bien, ils n'ont pas disparu, les villages. Ils sont toujours là, ils vivent toujours. Difficilement, d'accord, je vous le concède, mais ils sont là. Et ils n'ont pas envie de disparaître.
En tout cas, ce monde rural, il y a un art de vivre que certains redécouvrent.
Il y a une foultitude d'arts de vivre, mais qui se rapporte à une façon d'être. Une façon d'être en harmonie avec son milieu, en harmonie avec son environnement. Je fais exprès de dire qu'il y a une foultitude, parce qu'en fin de compte, c'est ça, il y a un art de vivre. Mais il n'est pas unique. Il est très varié selon la région, selon la possibilité des régions, selon ses handicaps, etc. et ses chances.
En tout cas, merci Didier Cornaille.
C'est moi qui vous remercie.
Était en notre compagnie ce samedi matin sur Radion. On rappelle donc que le 20 mars, dans une semaine, vous êtes à ce mur en Aussois, à la librairie de La Poste, auprès de notre ami commun Cyril Lefebvre.
Cyril Lefebvre, oui.
Où vous dédicacerez de 10h à 17h, 18h.
Jusqu'à ce qu'ils veulent bien me laisser partir.
Gentil Blandine, votre dernier roman. Et puis on se réjouit aussi de savoir que Le Vol de la Buse reparaîtra aux Presses de la Cité, grand format. Votre premier roman, 30 ans après, aux Presses de la Cité.
En septembre prochain.
Voilà. Et puis, cette émission se retrouve en podcast sur yannickpetit.fr. Et il ne me reste plus, Didier Cornaille, une fois de plus, qu'à vous remercier. Et rendez-vous peut-être en septembre pour reparler du Vol de la Buse.
Avec grand plaisir.
Et puis le prochain roman qui, je crois...
Ça, on laissera passer l'hiver.
Voilà, on verra ça en 2022.
Peut-être serons-nous déconfinés.
Sans doute, sans doute. En tout cas, très bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore, Didier Cornaille.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Je suis très content d'être avec vous.
Merci, Didier. Et à samedi prochain, toujours 11h sur Radion.